Bonjour à tous, chers amis HDRiens et HDRiennes. Je parle sur le générique, je suis fou, mes chers auditeurs. On est là, c'est le Blabla Mix, il est 17h, vous le savez, vous avez l'habitude, vous connaissez bien. Et comme d'habitude, à 17h sur Radio HDR, on retrouve que du bon avec ce soir, puisqu'on est joli, comme tous les jours d'ailleurs, je ne sais pas ce qui m'arrive, c'est la reprise, c'est difficile. On aura de l'agenda, plus savoir quoi en faire, chers amis, puisque nous sommes en compagnie de Alexandre, notre stagiaire. Salut Alexandre.
Salut, comment ça va?
Ça va très bien, et toi?
Ça va. J'ai bien préparé mon exposé, donc ça va.
Très bien, excuse-moi, je t'interromps, indigne que je suis. Et nous sommes également, vous avez peut-être reconnu son rire caractéristique avec Ousmane.
Ah, ça va, comment ça va, Jean-Bien?
Ben, ça va très bien. Ousmane qui vous a également préparé de l'agenda. Et bien sûr, vous le savez, on est jeudi, et jeudi, c'est boucherie sur Radio HDR. Et nous sommes aussi avec le doc Mansour qui nous a préparé une chronique où il vous dira enfin qui est Jack l'éventreur. L'énigme résolue, doc Mansour?
Non, pas résolue, mais plein de pistes.
C'est la frustration, mes chers auditeurs, c'est la frustration.
Sinon, ce ne serait plus une légende.
Eh oui, mais la vraie légende ici, doc Mansour, c'est vous. À vrai, ce moment, cette introduction, toujours difficilement le plus difficile du Blabla Mix, chers auditeurs, je vous le confie. On retrouvera également aussi mon Gramont à moi, une fois de temps en temps. On va faire un petit mon Gramont à moi, on vient parler du quartier Gramont. Et là, c'est notre ami Romain qui est parti voir l'atelier Graff au Boulodrome à Gramont. Et on va vous mettre ça tranquillement, il a fait des petites interviews. Et on retrouvera aussi les interviews de notre ami Loïc qui vous parle du festival Les Courtivores. Et pour me remettre de cette introduction laborieuse, chers camarades, je vous propose d'écouter un petit peu de musique. Et je vous propose donc, et non pas le générique, je vous propose d'écouter Les Voitures Sans Permis de nos amis Les Agités du Bocal sur Radio HDR.
Pas grand chose qui m'agace, si ce n'est peut-être quand je fais tomber la boule de ma glace, quand je galère une heure sur une ouverture facile, quand le téléphone sonne et qu'il n'y a personne au bout du fil, quand je me fais flasher à 115 au lieu de 110, quand un pigeon se soulage sur ma 206. Mais je peux passer sur tous ces désagréments, il reste quelque chose qui m'énerve vraiment. Sans permis, ça devrait être interdit. Faudrait les brûler, les broyer, les pulvériser. Ce qu'ils ont acheté, les exciser au couteau de boucher. C'est peut-être une réaction un peu excessive. Mais ces voitures ont sur moi des vertus dépressives. Y'a pas grand chose qui m'énerve. À part quand je mange et que quelqu'un m'observe, quand je sors de la douche et que j'ai pas prévu de serviette, quand je joue de la guitare et que d'un coup une corde pète, quand j'allume la télé et que je vois Hanouna, et quand j'ai pas la fève dans la galette des rois. Mais je peux passer sur tous ces désagréments, il reste quelque chose qui m'énerve vraiment. Les voitures sans permis, chose qui m'irrite, si ce n'est peut-être que les impôts, ça vous j'habite. Quand je mange un truc chaud et que je me brûle la bouche, quand une fois couché, j'entends tourner une mouche, quand j'achète des chips et qu'en fait c'est des miettes, et quand dans un mariage on fait pas tourner les serviettes. Mais je peux passer sur tous ces désagréments, il reste quelque chose qui m'énerve vraiment. Sans permis, ça devrait être interdit.
voiture sans permis par nos amis les agités du bocal sur Radio HDR.
Le Blabla Mix, 99.1 et 102.4 FM.
Et puisqu'on parle des agités du bocal, je vous propose d'écouter les petites infos sur les agités du bocal que notre ami Alexandre a nous passé.
Alors en effet, les agités du bocal, ils sont déjà passés ici dans le Blabla Mix, il y a un petit mois de ça, il me semble. Et là, en fait, ils vont sortir leur EP. Donc il y a une semaine ou deux, ils ont sorti leur premier clip sur YouTube. Et là, maintenant, ils sortent l'EP. Donc pour fêter ça, ils vont se produire au Bifrost le 11 mai à 20h. Et bien évidemment, l'entrée est libre, ce qui est assez avantageux. Et leur CD sera en vente là-bas pour 7€.
Ça fait plaisir, ça fait plaisir d'avoir des nouvelles de ces invités qu'on a reçus, qui nous avaient mis le feu au studio.
Ah oui, surtout qu'ils ont énormément d'humour et ils sont très décalés, donc ça plaît énormément.
Et puis même un mot à prendre encore cette chanson qui tourne dans nos têtes.
C'est vrai que ça rentre facilement dans la tête.
Bon alors Alexandre, qu'est-ce que t'as d'autre sous le coude?
Sinon, j'ai une petite soirée pour ce soir à l'Emporium Café. Easy Cheesy Night, ça fait longtemps que j'avais prononcé de l'anglais. Avec donc deux groupes, Easy Noise et Goat Cheese and Salmon Pie. Et donc l'entrée bien évidemment est gratuite et c'est des amis aussi à moi qui ont monté leur groupe là cette année et qui vont se produire pas pour la première fois mais qui commencent doucement mais sûrement à se faire connaître, donc je vous invite à aller écouter aussi.
C'est les bons plans d'Alexandre ce soir.
Bah oui, écoute, je me suis un peu renseigné, voir ce que je pouvais faire comme sortie et proposer aux habitants des Hauts-de-Rouen, et je pense que ça peut leur plaire.
Super, super. Est-ce que tu as d'autres super bons plans gratuits à nous proposer, ou est-ce qu'on passe à l'agenda de notre ami Ousmane?
Alors non, j'en ai encore 2-3 à vous proposer. Alors gratuits, non, pas forcément, mais y en a deux forcément, c'est des festivals, donc bon, faut mettre un peu la main à la poche. Mais sinon, avant ça, j'ai quelque chose à vous proposer qui se déroulera dimanche 5 mai et le dimanche 12 mai à l'Opéra. C'est donc l'Opéra qui organise ça, ça s'appelle Tous à l'Opéra. Et donc du coup, vous pouvez venir à partir de 14h, c'est gratuit et sans réservation. Et vous pourrez vous plonger dans les coulisses du spectacle Eugène de Tchaïkovski. Et suivre la préparation du coup d'un opéra, voir les techniques, puisque forcément il y a des techniciens sonores, rencontrer les artistes et assister au montage des décors. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'ils proposent différents autres ateliers, comme de la pratique artistique. Donc c'est vraiment quelque chose pour découvrir le monde de l'opéra, qui est quand même un monde très particulier. Une bonne chose à faire, je trouve, une bonne sortie.
Ouais, je suis d'accord, ça sort de l'ordinaire, c'est des trucs auxquels on s'attend pas et ça fait plaisir de les retrouver, je trouve.
Ça fait vraiment plaisir d'avoir ça à Rouen, parce qu'avec l'Opéra de Rouen, il y a beaucoup de dates, mais c'est vrai qu'avoir des entrées gratuites pour rencontrer et voir comment ça se passe, c'est toujours intéressant.
Ouais.
Et sinon, autre chose que j'ai à vous présenter, vous avez déjà entendu parler de la Friche Lucien, vous en avez déjà parlé ici.
Eh oui.
Mais il y a l'épisode 2, là, ce week-end, au même endroit, le 4 mai, de 14h à 1h. Donc c'est le même prix, c'est gratuit avant 20h, je crois, et à partir de 20h, c'est juste 2€, donc ça vaut largement le coup, si on veut sortir et si on arrive à prendre le bus sans problème. Et du coup, le collectif qui est en collaboration avec eux est là pour sensibiliser en fait à la solidarité et à l'éco-responsabilité, ainsi que promouvoir la jeune scène musicale qu'on peut avoir la chance d'avoir à Rouen. Et du coup, je vous invite à y aller, parce qu'on sait très bien que tout ce qui est écologie, c'est quelque chose d'assez important de nos jours.
Certes.
Ensuite, pour la fin, je vais vous parler du Rush Festival qui est organisé par le 106, donc du vendredi 24 mai au dimanche 26 mai. Là, on sort de la gratuité, justement, parce que bon, c'est quand même un festival sur 3 jours organisé par le 106. Mais ça reste possible de mettre la main à la poche, puisque les prix vont de 10€ à 24€ pour 3 jours, et pour une journée, de 4€ à 10€. Donc, sachant qu'il y a une trentaine de groupes, ça peut valoir le coup. Surtout au vu des têtes d'affiche qu'il y a, comme Vitalik, qui est très connu depuis longtemps et qui compose de l'électro, ainsi que Mister Oiseau, Fantastic Twins pardon, et Zombie Zombie, par exemple, que je ne connais pas forcément énormément, mais j'ai écouté avant de venir faire ma chronique. Et c'est vraiment tout ce qui est électro et ça peut plaire à certaines personnes.
Ouais, moi toi t'aimes bien l'électro je crois hein.
Bah moi de toute façon j'en ai déjà parlé un peu, je compose donc c'est quelque chose qui m'intéresse, mais je touche un peu à tout style de musique, donc c'est pour ça que je vous ai proposé à la fois du rock, de l'électro et d'autres styles de musique.
Et Ousmane aussi il compose, Ousmane compose des super chroniques, agenda également Ousmane maintenant.
T'es sûr? Bah oui, ouais, je fais des compositions, je cuisine aussi les l'agenda. Donc ouais, moi je vous propose de venir danser, de venir faire la fête à l'ancienne, donc voilà le grand bal de comment ça s'appelle, de Stade Louis Jouvet, donc qui est organisé par l'Étincelle et aussi l'association Galaor. Donc voilà, ils invitent aux habitants des Hauts-de-Rouen, c'est d'ailleurs aussi de venir Bali, de venir danser les grandes balles. J'ai du mal avec le mot parce que c'est un mot qui avait disparu, mais ça revient à la mode, donc tout le monde propose ça. Donc voilà, le grand bal des Hauts-de-Rouen, donc ça sera le 25 mai à partir de 19h au Stade Louis Jouvet. C'est juste derrière la salle Louis Jouvet, donc il y a un petit espace de stade de basket, de foot, donc qui sert un peu tout ça, donc ça sera là-bas. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est gratuit. Sinon, bah, pour ce mois-là, à partir du 6, la semaine prochaine, donc il y a une exposition à l'hôtel de ville de Rouen, donc une exposition qui est consacrée à l'Égypte antique. Donc voilà, la ville de Rouen et l'association Trade Union Diffusion, donc qui est dirigée par Madame Evelyne Pellerin, donc voilà, et Monsieur le Maire vous invite à venir au vernissage de l'exposition sur l'Égypte antique le mardi 7 mai. À partir de 18h30, le salon de l'hôtel de ville de Rouen. Donc voilà, c'est les deux petites choses que j'ai trouvées pour les sorties.
Bah c'est très bien, messieurs. C'est pas si petit que ça, parce que moi-même, je crois que je vais devoir être très rapide. Sauf que j'avais repéré déjà, puisque tu nous parles de l'Égypte antique, que je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez retrouver au musée des Antiquités actuellement des expositions. Alors je sais que ça part ennuyeux comme ça, mais j'y suis allé moi-même et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Des expositions de tissus coptes. Les coptes, ils faisaient de très beaux tissus en lin. N'hésitez pas à y aller, de toute façon le musée en soi est génial, hein. Si vous cherchez des trucs un peu sensationnels, il y a des momies, il y a des gens dans un état pas possible, dans des pots qui datent de plus de 2000 ans, même si vous cherchez du sensationnel, c'est ce qu'il faut. Sinon bien sûr il va y avoir les courtivores, mais ça notre ami Loïc nous en parlera mieux que moi tout à l'heure. Et il y a également ce samedi l'épisode 1 de Mesdames, Messieurs et le reste du monde. Alors c'est dans le cadre du Curieux Printemps, c'est un spectacle hors norme contre la discrimination, ça dure une heure. Ce sera donc samedi à midi au square André Mauroy, justement devant le musée des Antiquités. Même le parc en lui-même déjà rien que lui vaut le coup d'œil. Alors voilà, je vous propose d'aller vous voir ça. Et en attendant, pendant que vous notez, que vous digérez toutes ces belles informations, chers amis, je vous propose qu'on s'écoute notre petit Mon Gramon à moi sur l'atelier Graph.
Ah ben on leur a appris les bases, on leur a appris comment le graffiti est arrivé en France, comment des gens étaient tombés dedans de manière irrémédiable. On leur a appris à comment construire des lettres, on leur a appris à comment les mettre en couleur. On leur a appris à se servir d'une bombe, donc ils se sont rendus compte que bon bah c'est pas facile. Donc on leur a fait beaucoup remplir le mur. Et pour les plus précis et patients, on a commencé à travailler les décors, à remplir, essayer de leur montrer comment essayer de manier le spray. Bon bah c'est pas facile. Et puis bah on leur a fait réaliser des petites toiles pour qu'ils puissent repartir avec un petit souvenir chez eux. Et puis bon bah là aujourd'hui vu qu'on a bien avancé. Et puis bon, c'est la fin, on est tous un peu fatigués, ils s'expriment eux-mêmes hors de contrôle, on les laisse faire. Il y a Samuel qui est là-bas, qui est aussi un intervenant, lui de BioStyle Association, c'est dans le 78, qui travaille en collaboration avec nous parce que c'est un pote de mon équipe et qui est en train de surveiller quand même un petit peu pour que ça parte pas trop loin. On leur a appris l'histoire, comment ça arrivait et comment ça se pratique. Et surtout, on leur a appris les risques encourus, hein, bien sûr, parce que, mine de rien, c'est pas gratuit. Et puis, il y a de la répression, donc bon, il faut aussi savoir quel est le jeu. Hein, c'est le jeu du chat et de la souris, donc c'est bien que s'ils veulent aller dans la rue aujourd'hui, ils savent à quoi s'attendre. Ce qu'on voulait mettre en avant, c'était surtout le quartier, et puis mettre de la couleur surtout, et puis faire des choses assez simples. Parce qu'ils sont déjà un peu frustrés, parce qu'ils se rendent compte que c'est dur, que ça fait mal aux doigts, que la bombe c'est lourd, qu'au bout de 2 secondes, t'as la main qui tremble, t'as plus de force pour appuyer. Donc on leur a surtout fait faire des gros aplats, puis on a essayé d'apporter un peu de verdure et de couleur. Voilà. On s'est servi de Gramon comme de bulles BD. Voilà, donc on a tracé des grosses lettres typo, ce qu'on appelle chez nous, c'est block letter. Donc on a tracé des lettres blocs, ce qui nous permet d'avoir peu d'espace creux et de pouvoir balancer des choses à l'intérieur. Donc on a essayé de remplir toutes les lettres par des petits décors différents et de réécrire la sablière parce que les jeunes ne lâchent pas. Ils lâchent pas, ils viennent tous SBZ, la sablière Zoo, donc ils lâchent pas, ils veulent le voir. Donc c'est important pour eux, donc on s'en est douté, donc on était parti là-dessus. Comme ils sont un peu frustrés de ne pas avoir pu peindre plus, donc ils ont été demandeurs de réaliser quelque chose eux-mêmes. Les éducs et les entraîneurs, ils ont rempli tout le mur et ils ont été chercher des bombes en plus hors budget pour pouvoir leur permettre de faire des choses à eux-mêmes, pour qu'ils se fassent un mur eux. Donc en fait, c'est censé être le mur d'expression, donc là, ils s'expriment. Voilà, donc dessus, ils ont mis en avant le logo l'US Grammont, une manette de PlayStation, forcément, hein. Ils sont tous accros, je crois. Une planète, il y a une fusée et des drapeaux des pays de tout le monde. Donc voilà, donc ils s'expriment tous. Comme ça, ils vont peut-être être un peu moins frustrés de ne pas avoir pu plus pratiquer sur le mur, le premier mur.
On est autour du boulodrome, là, justement, situé dans le fond du quartier Grammont, à côté du terrain de foot. Est-ce que, justement, les boulistes sont déjà passés ?
Ouais, on les a vus. Ouais. On les a vus. Ils ont apprécié le travail des jeunes sur le terrain de boule. Et nous, l'après-midi, quand on était en finition, tranquillement, on les a vus. On a vu plusieurs groupes. Tout le monde est content, pareil, au top. Ils sont contents, ça les change. Le contrat est rempli pour tout le monde, je pense, pour que ce soit les jeunes, la mairie, nous, le club, le quartier. Je pense que, là-dessus, il n'y a pas de doute, ça fait plaisir à tout le monde.
Et c'était bien sûr une interview de Mathieu, l'animateur donc des ateliers Graff, dont vous pouvez retrouver le résultat sur le mur du boulodrome à côté du terrain de foot de l'US Grammont, puisque ça a été fait par les jeunes footballeurs de l'US Grammont pendant les vacances d'avril. Et pour changer radicalement de registre, on va vous préparer la petite chronique de Mansour. Et en préparation, notre cher Mansour nous a prévu des petites musiques à vous diffuser. Et là, notamment, c'est une musique qui est faite par des gars sur YouTube, Epic Crap Battle of History, tout est dit dans le nom. En fait, c'est des gens qui s'amusent à refaire en vidéo des battles de rap imaginaires entre personnages historiques. Et en l'occurrence, c'est entre Jack l'Éventreur et Hannibal Lecter. Et on s'écoute ça tout de suite sur Radio HDR.
Epic Rap Battles of History. Jack the Ripper versus Hannibal Lecter. Begin.
Oi, mate, pass the liquor. It's Jack the Ripper, Jack the Rapper. Following you way before the dawn of Twitter. I'm a human trigger warning through the night until the morning. When the light shined upon my crimes, you find it sick, appalling, an infamous, notorious delinquent. There's little more gory a thing than living in Victorian England. This is horrorcore. Beware if you're a common whore, or at late night you may find me knocking on your door. Not keen to leave until I'm knee deep in blood and gore. Your grieving family on their knees, weeping, scrubbing floors. If the police need a lead, they know what they're looking for. My raps are like the way I eat my meat, bloody raw.
Yeah. You're a classic megalomania. You haven't mentioned me once in your entire battle rap. Pity your verse wasn't worth a trip in the jacket. Quit jacking off in the track and put the lotion in the basket. And catch what the illa serial killer can deliver. Rhymes finer than the Chianti I would pair with your liver. Just the thought of your putrid flesh makes me wanna shiver. Cause your British body's covered in more piss than kitty litter. You stabbed women when they wouldn't give you attention, like a Penny Dreadful version of O.J. Simpson. But these days your nickname is all that's even known, and you didn't even come up with that shit on your own.
I'm real. You'll find me making vacancies in brothels, while you only exist inside the pages of a novel. You were kept for ages in the hovel, contained within a cage behind a locked door. Well, I never got caught. So who's the superior serial killer, Dr. Lecter? I'm still wanted. You're forgotten. People these days are watching Dexter. So God protect you from the hell I've spread upon us. I'm terrorizing London. Fuck the 7-7 bombers.
No, Jack, you are doing fine. Before your ham-fisted attempt at a terrorist lie.
How typical of Jack the Ripper to chase a headline.
Pick Ray Liotta's brain and ask him how I get mine.
I'm the bon vivant of violence, a licensed psychiatrist who dines in higher society to the sound of violin.
Don't get me wrong, I'd roast both your balls and my hibachi.
But for a serial killer, you're as tasteless as a bowl of kashi.
You prey on a prostitute and play with her body. I don't mind that you're naughty, Jack.
I hate that you're sloppy.
Barney, take me back to solitary confinement, cause this dirty little lamb has just been silenced.
Oh, Lord! Who's there? You decide!
Battles of the
Et c'était Epic Rap Battle of History, Jack the Ripper versus Hannibal Lecter, le choix du Docteur Mansour.
De 17h à 18h, c'est le Blabla Mix sur HDR et Principe Actif.
Le docteur Mansour, donc, qu'on retrouve pour nous parler donc de Jack l'Éventreur. Rebonjour, cher docteur. D'aucuns disent à la radio, des rumeurs circulent, que vous auriez inspiré le personnage de Hannibal Lecter.
Ah, en quel sens? Donc, on a été resté à ces fameux meurtres de Jack l'Éventreur, comme les journalistes, un journaliste l'a appelé, et après, le nom est resté. Donc, le 17 septembre 1898, c'est Annie Chapman qui est retrouvée à l'arrière, dans une arrière-cour. Et en fait, sa tête est presque arrachée pour celle-là. Et en fait, il a commencé à bien la serrer. Et en fait, il a retiré certains organes, l'utérus et deux tiers de la vessie.
Pourquoi pas ?
Oui, mais il a aussi disposé, en fait, les intestins sur l'épaule en guise de châle.
Salutations à ceux qui sont en train de goûter.
Bon appétit.
Bon appétit.
Alors, le plus fou, c'est qu'en fait, d'après les rapports de police de l'époque, c'est qu'en fait, le meurtre a eu lieu vers 6h du matin, à l'heure où les gens se réveillent pour aller travailler, parce que Whitechapel, c'est quand même des gens pauvres, en réalité, qui travaillent 16 heures par jour, en moyenne, pour un salaire de misère. Alors, juste pour rappeler, c'est qu'à l'époque, pour louer un lit ou une chambre, il fallait 4 pence. Et si vous n'aviez pas les moyens, vous pouvez aller vous faire loger dans des résidences, on va dire, d'urgence. Ou si vous n'avez vraiment pas les 4 pence, bah vous payez 3 pence et vous pouviez dormir debout attaché à une corde.
Oui, c'est même une époque où, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas de chômage. Parce que dans le sens où si vous n'avez pas de travail, vous allez travailler de force dans des espèces de cordelleries et tout. Hein.
Oui, c'est assez violent comme c'est, société.
C'est possible de dormir debout attaché à une corde?
Au bout d'un moment, quand tu es fatigué, tu t'endors. Hein, ouais.
Mais tu ne te pends pas.
Non, mais là, le problème, c'est qu'il y a des milliers de gens qui le faisaient à l'époque. Et ça, il faut le savoir. Parfois, on vivait même dans des on vivait dans des appartements à neuf. Hein. Le grand-père, les parents, les petits-enfants. Et la population était... En plus, là, avec les maladies, si votre enfant vivait jusqu'à l'âge de 5 ans, il avait beaucoup de chance, parce que 50% mourraient bien avant.
D'accord.
Ouais. Ça devait être quand même drôle à voir, tu sais, les personnes tous pendues, qui dorment tous.
Oui, drôle,
sacré
je sais
spectacle,
pas.
Hein.
Bah, pour montrer le niveau de vie, il faut savoir qu'à l'époque, une passe avec une prostituée, ça coûtait à peu près 3 pence.
Oh, mais donc c'est moins cher qu'une nuit, finalement. Que la nuit,
ouais. Oui, mais c'est moins cher qu'autre chose. Le prix de la demi-livre, c'est-à-dire 250 grammes à peu près de fromage, coûtait 4 pence et demi.
Si on peut appeler ça du fromage, je vous rappelle qu'on parle de la Grande-Bretagne.
Voilà. Donc, à 6h du matin, avec un immeuble où il y avait des gens et de la circulation, bah, apparemment, il a eu le temps de faire ça. Certains diront même que c'était un artiste. Hein. Mais en fait, à l'époque, en fait, le fait qu'on écrive tous ces articles, pas oublier que l'Angleterre est une société bien pensante, qui est un modèle de vertu. Donc, un orgueil assez par rapport à ceux qui habitent sur le continent. Et en fait, non seulement ils reçoivent des lettres de gens qui se dénoncent en étant eux-mêmes le criminel, d'autres, en fait, vont écrire des lettres assez curieuses. Et ça, on peut le voir sur la Bibliothèque nationale de Londres, et de Cambridge principalement. Et ben en fait, non, ils disent qu'il faut laisser faire cet homme, parce qu'il est en train de nettoyer la ville, de tout ce ramassis de prostituées qui existe dans la rue.
C'est une façon de voir les choses.
Bah, juste pour vous dire qu'il n'y a pas que des lettres de dénonciation de Jack l'Éventreur. Et le 30 septembre, c'est le tour d'Elizabeth Stride, qui, elle, a croisé le chemin de ce fameux Jack. Mais bon, elle a juste été égorgée, elle a eu de la chance, apparemment, il a été surpris. Et en fait, dans la même nuit, il va tuer Kate Conway. Et là, elle va avoir beaucoup moins de chance, parce que là, il va s'en donner à cœur joie.
On retrouve un peu le mode opératoire dont on parlait la semaine dernière. Il ne réussit pas à faire ce qu'il voulait, donc il se venge sur une autre...
Ouais. Mais alors là, elle a une marque en V, il commence à lacérer le visage, et là c'est nouveau. Ce qu'il ne faisait pas sur les autres. On n'a pas trop compris, il a lacéré le visage avec un V. Et c'est là qu'en fait, il commence à y avoir des choses. Donc le rein, l'utérus manque, son estomac, et on retrouve tout ça posé sur les épaules encore une fois. Même processus qu'avant. Et le sommet de l'horreur, et en plus, là cette fois-ci, c'est une victime qui sort de son cadre. Parce qu'elle est énigmatique celle-là. Mary Kelly, ou Mary Ginger Kelly. Elle, c'est le 9 novembre 1888. C'est la plus jeune, elle a 25 ans. Alors que les autres ont entre 40 et 49 ans.
Est-ce qu'on est sûr que c'est lui, du coup?
Voilà. On verra dans les hypothèses qu'il y a plusieurs choses qui vont se mettre en place. Et en fait, et cette fois-ci, c'est à l'intérieur, c'est chez elle. À l'abri des regards, et alors là, c'est L'apothéose, si vous pouvez voir des photos, vous verrez, il en a mis un peu partout sur les murs.
Moi, je les ai vus, je ne vous conseille pas d'aller voir.
Non. D'ailleurs, ça va choquer beaucoup de gens, d'ailleurs. Et en fait, là, la surface, tout est... là, ici, il s'est vraiment lâché. Et ce qui va intriguer les enquêteurs, c'est que les affaires de la jeune femme sont bien pliées sur la chaise. Alors, soit elle connaissait la personne qui est venue la voir, ou elle-même avait déjà rangé ses affaires avant qu'il arrive.
Est-ce qu'elle était prostituée?
Oui, c'est une des plus jeunes. Et la plupart avaient un passif assez lourd avec leur famille. Mais en fait, le fait qu'il ait marqué déjà de son époque marque encore aujourd'hui tout ce qu'il a pu faire. Et à partir de là, c'est les en plus, imaginez ce que peut dire la presse à l'époque en se moquant de la police qui n'arrive pas à résoudre une affaire. Ils arrêtent, comme j'avais expliqué, plus de 2000 personnes. On surveille 300 allées et venues. On en arrête vraiment 80 et on libère tout le monde. Donc, il y a plusieurs pistes. Il y en a, ils disent... Les médecins légistes disent que c'est quelqu'un qui connaît un minimum l'anatomie humaine ou l'anatomie tout court et qui sait disséquer. Donc, on va même interroger des étudiants en médecine et tout, mais rien. Absolument rien. Les lettres restent toutes énigmatiques. Bon, certaines sont complètement jetées. Sauf les deux fameuses où il y a From Hell.
From Hell, ouais.
Celles-là sont les plus intrigantes.
Morceau de rein, quand même, c'est pas anodin.
Non. En disant qu'il en avait mangé la moitié.
Ah, d'accord.
C'est un délire comme un autre.
Et à partir de là, en fait, c'est là que en fait, toutes les théories vont commencer à sortir. On va commencer à dire que c'est un tel, c'est un tel. La société bien-pensante dit « Ce n'est pas un Anglais, donc c'est un étranger. » Mais comme la majorité des étrangers viennent de Russie, de Pologne, et qu'une partie d'entre eux sont de culture juive, vu l'écriture qu'il y avait eu à un moment, les Juifs ne seront pas accusés pour rien.
Ouais.
Donc on va commencer à chercher aussi par là les bouchers juifs ou des médecins juifs. Mais la police craignant qu'il y ait un pogrom ou des accusations à tort. Un voyageur qui reviendrait des Indes, alors lui il a été accusé, mais alors c'est le flou total dans l'enquête parce que il a débarqué en plein milieu de l'affaire. Il n'était même pas là lors des premiers meurtres.
Donc Scotland Yard panique en fait.
Bah ils paniquent parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Bah alors, faut savoir qu'il n'y a pas... C'est le début de la police scientifique, hein, pas oublier, les empreintes n'existent pas, le fichier d'empreintes, ça n'existe toujours pas. Les fiches judiciaires où il y a le portrait des criminels, ça n'existe pas. Et les prototypes, on va dire, les futurs profilers, ça n'existe pas, parce que j'avais dit le docteur Bond qui avait commencé à le faire, c'est le premier.
Il n'a pas de témoins, pas d'indices, rien.
Le problème des témoignages, c'est que c'est assez ambigu, c'est qu'il mesure entre 1m50 et 1m70.
Oui, je me rappelle de ça.
Il a un chapeau haute forme ou un chapeau. Il a une grande cape. Tantôt, on voit qu'une valise, tantôt sans valise. Plutôt bien habillé et distingué. Bon, ce qui veut rien dire.
Ouais, bah surtout que bon, un homme avec un chapeau haute forme et une cape.
À cette époque-là, ça devait courir les rues quand même.
Mais il y avait que ça. Alors, en sachant qu'à l'époque, Whitechapel est un quartier qui n'est pas éclairé. Donc, on ne voit pas en pleine nuit, on voit à peine à 20 mètres. Hein. En plus, il y avait de temps en temps le brouillard ou du fog, mais souvent dans les rapports qui sont marqués par la police, je pensais qu'il fallait vraiment les lire un jour, que quelqu'un s'y intéresse vraiment, mais longuement, bah souvent les meurtres ont eu lieu quand il n'y en avait pas. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien les ruelles, pour échapper à tout le monde en permanence.
Ouais, et puis peut-être quelqu'un qui choisit justement les jours où il n'y a pas de brouillard, je sais pas, pour repérer sa victime ou quelque chose.
Oui, puis en plus les victimes sont bien ciblées apparemment. Donc, alors on va suspecter, alors à l'époque, on va suspecter un certain Michael Ostrog. Donc c'était juste un suspect, le préféré des enquêteurs à l'époque. Escroc professionnel et criminel d'origine russe, qui était connu des services lui par contre. Et en fait, lui, il dit qu'il a été victime d'un chirurgien dans la marine russe, c'est ce qu'il disait. Et en fait, bon, ça tient pas. Ouais. Il a aucune compétence anatomique. Et en plus, au moment des faits, il n'était même pas en Angleterre.
Ah bon, bah du coup, oui, ça peut pas être lui.
Ça tombe à l'eau.
Et justement, parce qu'il purgeait une peine de prison en France.
Ah.
Pour escroquerie et des petites broutilles.
Comme quoi, des fois, on a de la chance sans s'en rendre compte.
Ah bah, vaut mieux être en prison en France, alors qu'en Angleterre, il y a des choses qui se passent. Ouais. Alors, George Chapman, lui, qui est un émigré polonais, arrivé à Londres, juste avant le début des meurtres. Donc lui, il a été plus ou moins suspecté.
Un lien avec la victime qui s'appelle Chapman?
Oui, il n'a pas aucun lien, lui.
Ah d'accord.
Donc, on dit qu'il a été aperçu sur plusieurs lieux des crimes. Et en plus, le problème, c'est qu'il travaillait comme barbier.
Ah oui, donc on maîtrise du couteau, quoi.
Mais voilà. Bon, on dit qu'il a été accusé d'avoir trucidé lors d'une bagarre plusieurs personnes. Donc il maniait bien le rasoir, apparemment.
Oui.
Sauf que Et en fait, il est délicat. Et en fait, c'est pas un dingue, c'est pas un sanguinaire, c'est pas un violent.
Oh bon, si il participe à des bagarres au couteau, quand même, ça doit pas être...
Apparemment, on l'avait provoqué, donc là, on a dû le pousser.
Ah bon.
Donc en fait, il va échapper. Alors là, c'est en fait, on va presque dire, c'est... Pour moi, c'est le coupable, pas forcément idéal, mais c'est l'accusation que je préfère la plus, Lewis Carroll. Si vous savez qui c'est Lewis Carroll.
Lewis Carroll, le gars qui a écrit Alice au Pays des Merveilles.
Oui, parce qu'on lui colle en fait, il n'était pas que écrivain, il était mathématicien. Ça, il faut le savoir.
Ben, maintenant, on le sait.
Donc, lui, en fait, on lui accole en fait, des démarches un peu bizarres et une tendance, une fascination à la criminalité et au sang.
Bah, son livre est un peu bizarre, mais enfin, dans Alice au Pays des Merveilles, il n'y a rien qui évoque Jack l'Éventreur, quand même, non?
Non, mais on l'a quand même accusé. Vous allez voir, il y a des accusations assez peu probables. Nathan Kaminski, qui est lui, en fait, qui est un tailleur professionnel, donc il vit dans le quartier, en fait, en plein centre de Whitechapel. Mais en fait, il a été hospitalisé pendant la période où, on l'accuse.
Loupé.
Non. H.H. Holmes, alors lui, c'est Herman Westberg. Alors lui, le problème, c'est qu'on l'accuse lui aussi, parce qu'à l'époque, apparemment, il aurait été aux États-Unis, du moins. Il est américain à la base. Hein.
Ouais.
Donc, il est en Angleterre et on lui accole plus d'une centaine de meurtres.
Ah d'accord. Bon,
c'est un des plus grands serial killers, en fait, avec Jack l'Éventreur.
Bah, finalement, on en a trouvé un quand même.
Oui, mais le problème, c'est que son agenda ne correspond pas.
Ah. Ouais, l'agenda du tueur en série ne correspondait pas.
C'est assez extraordinaire.
Ah oui, mais le problème c'est ça, c'est qu'en fait on a collé à beaucoup de gens, mais en fait non, il y a des gens ça correspond pas. Alexander Potachko, lui médecin russe, et ben en fait lui non, parce qu'il joue aux cartes et il jouait à des jeux de hasard pendant les périodes où tous ces crimes auraient eu lieu.
Donc pas lui.
Non. Par contre, il y en a un autre qui peut-être. Alors lui, il est intéressant parce qu'en fait, il y a eu toute une histoire récente d'ailleurs. John Membry, qui est un négociant en coton, qui est anglais. Donc lui, il voyage entre les États-Unis et l'Angleterre. Donc lui, à un moment, on l'a accusé parce qu'en fait, il a des allées et venues dans ce quartier-là. Comme il n'est pas loin, il est originaire. Il voyage aux États-Unis, il arrive en Angleterre. Famille plutôt riche, hein. Très riche négociant. Et en fait, on lui attribue, je dis bien on lui attribue, incarné apparemment on va dire un journal intime où les meurtres sont expliqués et qui lui serait attribué à lui et que ce serait à la fin il marquait Jack signé cordialement Jack l'éventreur. Le problème c'est que la journaliste l'écrivain qui a soutenu cette thèse, il y a juste un petit problème, c'est que le papier est bel et bien d'époque, l'encre est bel et bien d'époque, mais le style d'écriture n'est pas de l'époque.
C'est-à-dire ?
En fait, c'est un peu trop moderne par rapport à ce qui est écrit, et c'est écrit de façon très romancée.
D'accord, donc des doutes quant à la véracité de ce carnet, quoi.
Non, là. Donc, pour l'instant, c'est un grand suspens. Et le comble, c'est qu'il est mort que quelques mois à la fin de ce qu'on a officiellement appelé les derniers meurtres de Jack l'Éventreur, empoisonné par sa femme. Il le soupçonnait, elle savait qu'il l'a trompé, donc elle a décidé de le tuer, c'est le comble.
Suspect intéressant quand même, non?
Oui. Oui, parce qu'on sait qu'il a trompé sa femme et qu'il fréquentait les prostituées et autres. Et il y en a un autre, alors qu'à lui, qui est par contre beaucoup plus intéressant, pas forcément parce que je crois que c'est lui, mais vraiment autre chose, c'est Walter Sickers, qui est un peintre. Et par contre, il faut voir ses toiles, parce qu'elles sont vraiment morbides.
C'est-à-dire, il peint des scènes de crime, quoi.
Bah, c'est souvent des scènes de nus, de crime, avec des femmes lacérées... C'est assez étrange. Et donc, il y a une écrivaine qui s'est intéressée à lui, qui dit que pour elle, elle a dépensé quasiment entre 4 et 5 millions de dollars pour sa recherche. Donc, pour elle, c'est lui. Mais c'est vrai que, curieusement, lui, par contre, c'est pareil. Son agenda ne correspond pas vraiment au moment des meurtres.
Mais est-ce que, par exemple, on trouve des similitudes entre certains meurtres
tableaux et certaines photos, oui.
Ouais, parce qu'ils sont très caractéristiques, les meurtres de Jack l'Éventreur, comme ça. Il doit avoir moyen de.
Bah, Walter Sickers, il faut voir ses tableaux. C'est très caractéristique aussi. Dessiner des cadavres.
Ouais. Après, pas de preuve, quoi.
Oh non, aucune preuve. Alors, et après, il y a Sir William Gull,
oula,
qui est physicien et bien sûr médecin de la reine.
Oui, physicien à l'époque, ça veut dire médecin un peu.
Oui, mais là, il est médecin et physicien.
D'accord.
Donc lui, brillantes études, très proche de la reine d'ailleurs, Victoria. Et en fait, lui, on le soupçonne parce qu'en fait, il serait très lié au petit-fils de la reine Victoria, C'est là que vous allez voir. Si pour ceux qui ont vu le film From Hell, vous savez de quoi je parle. Le prince Albert Victor qui aurait eu des relations avec une catholique, en plus prostituée, et qui aurait peut-être porté un de ses enfants.
Oh, ça n'a pas dû plaire qu'elle soit catholique.
Non, mais le problème, c'est qu'une prostituée qui porterait la progéniture d'un futur roi, ça peut
ça
pas
faire. Voilà.
Donc là, ouais, là est né le complot en fait totalement royal d'éliminer, comme il savait pas trop c'était laquelle, parce qu'apparemment le prince en allait voir plusieurs, sachant que le prince a fait la syphilis à cause de ça d'ailleurs.
C'est un classique à l'époque, non?
Il y avait beaucoup de syphilis à l'époque. L'hôpital de Londres était spécialisé, avait toute une section que pour ça. Et en fait, alors ce médecin, apparemment, c'est lui qui aurait été chargé d'éliminer ces braves femmes.
D'accord, ouais, ça part un peu tiré par les cheveux, non?
Non, parce qu'on peut aller plus loin, parce que From Hell est tiré d'une BD d'Alan Moore.
Ah oui.
Qui est tiré lui-même d'un roman, en fait.
Ça doit être bien violent.
Bah, c'est violent, sauf que là où Alan Moore a été plus malin que les autres, ou du moins plus subtil, et c'est là où je le rejoins. Pas forcément sur cette en disant que... Comme Sir William Gull était en plus franc-maçon, donc imaginez tout ce qu'on peut imaginer au niveau du complotisme généralisé. Et en fait, alors là où c'est le plus intéressant, c'est que Alan Moore, dans cette bande dessinée, qui est une nouvelle en réalité, fait de Jack l'Éventreur le passeur du siècle. C'est-à-dire qu'on est au 19e siècle, par le fait de ses crimes qui montrent l'envers du décor de la société anglaise industrialisée, on passe au 20e siècle.
Ouais.
Mais par l'horreur. Par le crime.
C'est pas absurde. Hein.
Non, c'est pas absolument pas du tout absurde.
Je suis d'accord.
Parce que là, on arrive... Sachez que le mot serial killer n'existe pas. Les méthodes scientifiques n'existent pas. Et d'ailleurs, vous avez sûrement entendu qu'on a encore trouvé un autre... On a peut-être identifié Jack l'Éventreur grâce à l'ADN. Moi, je veux bien y croire.
Mais j'ai l'impression que c'est tous les 3 jours qu'on a identifié
oui,
Jack l'Éventreur.
Tous les 5-10 ans en moyenne. Mais le problème, c'est que moi, je veux bien l'ADN, mais rationnellement, ça ne fonctionne pas, parce que pour pouvoir comparer un ADN, il faut un échantillon d'origine.
Ouais, c'est pas faux. Et là, on n'a vraiment rien. Je veux dire, on n'a pas un cheveu de Jack l'Éventreur, un truc oublié sur une scène de crime, je ne sais pas.
Bah, sinon, il faudrait tout identifier, tout analyser, et est-ce qu'on pourrait trouver.
Bon.
Il y en a eu beaucoup. Hein. Il y a eu aussi un boucher juif, Lévi, qui avait été accusé lui aussi. Bon, lui, il travaillait dans le secteur, d'ailleurs. Mais ces allées et venues correspondraient, plus ou moins.
Ah, puis boucher, ça pourrait correspondre.
Et d'après les témoignages, vous pouvez toujours voir sur les archives d'ailleurs, tout en anglais bien sûr, en fait, sa femme disait bien qu'il ne travaillait plus, il errait souvent des nuits entières, donc on ne sait pas. C'est pareil, à l'époque, les gens étaient parfois pas très bien psychologiquement et devaient errer, boire et être en perdition.
C'est votre suspect préféré, docteur ?
Lequel ?
Le dernier, Lévi, le boucher.
Non.
Ah.
Non, non. Il y en a un autre, c'est Paul.
Bah, Paul, bonsoir, monsieur Paul. Il a un nom sympa, je trouve. Ouais. J'ai pas envie que ce soit lui.
Bah, en fait, lui, alors, c'est curieux, parce qu'en fait, dans les témoignages, et bah, en fait, il est là. Il témoigne, il a vu. Mais, bizarrement, il se retrouve quasiment dans toutes les scènes de crime, quasiment, entre guillemets. Il a donné une fausse adresse et un faux nom.
Oh.
Donc, en fait, on sait même pas qui c'est.
Intéressant ce personnage aussi. Mmh.
Ton Paul, il a l'air suspect, mon gars.
Est-ce que il s'appelle Paul, c'est un Français?
Non, même pas.
Ah bah bon. Non, il a donné une fausse un faux nom.
Ah bah oui, c'est vrai.
Oui, il a donné une adresse 22.
Je pense que c'est mon coupable idéal. Donc il veut accuser les étrangers, lui.
Non.
Ah bah sinon, après, il y a Robert Mann qui, lui, était employé de morgue.
Ah oui, mais là, c'est pareil, ça ressemble. Et...
Bah lui, en plus, il était marginal, il était un peu à la marge, il avait un humour sinistre et sombre, d'après...
Ouais, employé de morgue, en même temps, ça ne va pas être un métier facile psychologiquement.
Ouais,
non, faut surtout avoir beaucoup d'humour. Et en plus de ça, c'est dans sa morgue qu'on a amené deux des victimes, Mariam Nicole et Annie Chapman.
Ouais, mais en même temps, bon, c'est terrible ce que je veux dire, mais elles ont été tuées avant d'être amenées à sa morgue. C'est pas
oui,
de sa faute.
Non.
Ou alors, est-ce que c'est ils sont amenés à sa mort parce qu'elles sont tuées dans un certain secteur ou...
C'est par rapport au secteur en général.
Ah ouais.
Et après, c'est le médecin légiste qui fait le boulot derrière.
Ah ouais. Espérons qu'il n'ait pas fait le boulot avant, celui-là, en l'occurrence.
Ah bah non. Et en fait, la plupart des thèses, en fait, on voit bien qu'elles sont plus ou moins fragilisées. Mais le plus intéressant, c'est pas de savoir qui c'est. C'est comme je dis, c'est comme à l'amour qui l'explique très bien. C'est qu'est-ce qui fait que ce personnage qu'on lui attribue officiellement 5 crimes, mais en fait, il y en a eu avant et après. Parce qu'on sait que généralement, serial killer ne se suicide pas. Et s'il arrête, c'est que soit il s'est fait incarcérer, soit il s'est fait tuer, ou soit il y a quelque chose qui fait qu'il arrête. Là, on a affaire à un criminel qui ne vole pas, mais qui monte dans l'horreur au fur et à mesure. Bon, entre guillemets, dans l'horreur, pour lui, c'est son fantasme, c'est sa réalité. C'est pas la nôtre. En fait, il montre juste le symptôme total d'une société malade.
Ouais, parce que là, on a parlé de Whitechapel en fond. C'est quand même un moment un peu sinistre de l'histoire de l'humanité, quand même.
Oui, mais c'est le début de l'industrialisation. Il y a des gens qui deviennent de plus en plus riches et d'autres qui travaillent 16 heures par jour pour un salaire de misère, qui étaient incapables de se pouvoir même louer un logement décent.
Ouais, la Grande-Bretagne, pays le plus riche du monde, en même temps, pays le plus pauvre aussi. Quoi.
Ah, c'était à l'époque.
Mmh. Oui, à l'époque, bien sûr.
En sachant que, comme je vous ai dit, les gens vivent au jour le jour. Donc, de quoi se nourrir juste la journée, et encore la journée, parce qu'il vous restait 8 heures en dehors des 16 heures de travail quotidien. Ouais. Avec une mortalité enfantine à 50%.
La variole, je crois, même à l'époque.
La variole, la syphilis, tout ce que vous voulez. Et 3 ans avant, il y a eu quand même, bon, il y a eu le métro qui commençait à se construire. Le Parlement anglais a été obligé de mettre des draps sur les fenêtres, imbibés d'essence, de huile essentielle et autres, pour éviter les odeurs qui remontaient d'en bas.
Ouais, ça en dit long, il paraît que la Tamise à l'époque était un véritable égout à ciel ouvert.
Ouais, ça, c'est la grande puanteur qui a duré pendant 2 étés.
Sympa. C'est un peu comme le centre de Rouen en ce moment, quoi. Bon, bah très bien, Doc. Ouais. Est-ce qu'on s'en garderait pas un petit peu sous le coude pour la semaine prochaine?
De Jack? Non, on va passer à une autre guerre, une guerre bien. Des gangs.
Oula, et bah on retourne aux gangs avec du sang, chers amis. Et pour dire au revoir à Doc Mansour, à cette chronique sur Jack the Ripper, je vous propose d'écouter un son qui nous a également été proposé par Doc Mansour. C'est un son de Rob Kelly, ça s'appelle Jack the Ripper. Sur Radio HDR.
Le Blabla Mix sur HDR est principe actif, 99.1 et 102.4.
Et on se retrouve tous ensemble dans une ambiance un peu froide, comme j'allais faire une blague que je ne ferai pas car elle était vilaine. Jack the Ripper, Jack l'Éventreur, nous a tous un petit peu choqués. Et je vous propose que pour se remettre de ça, on s'écoute une petite interview que nous a réalisée pour Campus Mag, notre bon ami Loïc, qui a été réalisé ça le 16 avril 2019 à l'Omnia, donc rue de la République, avec Laurent Guénolet de l'association du Courtivore, pour nous parler de la 19e édition du festival du court-métrage à Rouen et à Mont-Saint-Aignan, qui se déroule du 3 au 24 mai 2019. Alors là, c'est un retour sur le déroulement du festival, les tendances de l'édition 2019, la sélection... La sélection cinématographique, sélection filmique. On se retrouve ça tout de suite. Loïc va nous dire ça mieux que moi, mes chers auditeurs.
Pour parler de cette formule justement qui remporte un franc succès année après année, avec une finale qui affiche complet déjà depuis de très nombreuses saisons, surtout ces dernières années. Mais pour les auditeurs qui n'ont pas encore eu la chance et l'occasion de découvrir votre festival, est-ce que tu peux nous en décrire, je veux dire, la recette, puisque ça tourne un petit peu autour de la bouffe même au niveau de l'édito d'ailleurs.
Oui, après, c'est parce que le nom était comme ça et qu'il fallait... je te dis tout, il y a 19 ans, on s'était démarqué avec l'idée... parce qu'il faut toujours, quand tu fais un festival, il faut toujours avoir une petite chose qui fait qu'on te remarque par aux autres festivals, surtout qu'à l'époque, il y avait quand même pas mal de festivals de courts-métrages. Nous, on avait créé un prix, le prix public, c'est-à-dire qu'on n'avait pas à l'époque de jury. C'était un choix, c'est-à-dire qu'on se disait, après tout, les Rouennais... ils viennent voir les films, ils vont un peu assumer le prix qui va en sortir. On n'a pas besoin de trouver des têtes pensantes venant du monde entier ou de Paris ou pour nous dire ce qu'est un bon film. Et donc, on s'était mis comme ça. Donc après, la deuxième chose qu'on s'était dit, c'est à l'époque, il y avait très peu de cours qui étaient diffusés. Hein. C'était, je vous rappelle, dans 2000, quoi. Internet n'était pas ce qu'il était maintenant. Et on s'était dit, il faut trouver... une autre façon de faire pour que les gens puissent venir à toutes les programmations. Donc, on a divisé, nous, on sélectionnait toujours 24 films. On les a divisés par 3 séances. Donc, à l'issue de chaque séance, le public participe en choisissant les films qu'il a préférés. Et au moment où on se retrouve avec un certain nombre de films qui finiront dans une finale, donc cette année, c'est à l'Omnia, où finalement, tout le monde va revoter. Et on va sélectionner le film qui a eu le meilleur vote. Et puis ce sera le film, voilà, ce sera le prix rouennais du court-métrage. Voilà.
Justement, cette édition 2019, cette 19e édition, comment pourrait-on définir ce cru? Est-ce que c'est un cru, on va dire, assez noir, assez humoristique? Est-ce qu'il y a une petite veine qui s'en dégage de cette édition?
Alors déjà, pour revenir un peu à ce qu'est le court-métrage peut se permettre pas mal de choses par rapport au long-métrage. Il peut se permettre d'être toujours un peu plus clash, un peu plus quelque part aussi dans l'air du temps, c'est-à-dire, je m'explique pourquoi, parce que comme c'est une économie qui est quand même moins important, on peut être actif sur l'air du moment, c'est-à-dire que on peut créer un court-métrage en quelques mois et donc être toujours dans la mode de certains types de, ou la mode en tout cas dans le débat du moment sur certaines thématiques. Alors voilà, il faut vraiment se dire ça, c'est pour ça que je vous dis toujours, les gens ont du mal à comprendre, mais quand vous allez voir du court-métrage et que vous avez des enfants, il faut toujours poser la question, est-ce que c'est adapté? Parce qu'il y a des thématiques qui sont toujours plus dures qu'on peut l'avoir dans le long. Et dans le court-métrage, la difficulté, c'est que c'est vrai que dans le long, quand tu vas voir un film, tu as vu la bande-annonce avant, tu sais à quoi tu vas t'en tenir. Le court-métrage, c'est vrai que on nous fait confiance et en général, on ne sait pas ce qu'on va voir. Bon, nous, on a de la chance, le public nous fait confiance. Donc voilà, c'est déjà ça. Bon, alors cette année, le cru, donc cette année, nous, on a été surpris, ou pas vraiment, mais en tout cas, on était très contents, c'est qu'on a eu extrêmement une bonne année en termes de réception. C'est-à-dire qu'on a eu des très très bons films. Pourtant, c'est dur, hein, parce que quand tu sais, quand t'en as vu pendant 19 ans, tu programmes un peu, t'as du mal des fois à trouver des choses qui t'éveillent, parce que tu dis, bon, ça j'ai déjà un peu vu, ça ok, ça, et t'as envie de nouvelles choses. Eh bien, cette année, on a reçu 1200 films. On a eu du mal, vraiment, dans la dernière partie, à sélectionner. Parce qu'il nous restait 50 films qui étaient tous, ils étaient tous aptes à aller au festival. Et voilà. Et ben non, il fallait en choisir 24. Donc, on a fait au mieux. Nous, dans la programmation, ça a rangé chaque année pour qu'il y ait un peu de tout. C'est-à-dire qu'à la fois, tu as de l'animation, fiction, documentaire, c'est plus difficile. Des thématiques plus sombres, de l'humour, de la fiction, de la science-fiction un petit peu. Vraiment, on essaie de... Et c'est le projet de base du Courtivore, c'est de proposer au public, une personne qui ne connaît pas vraiment le monde du court-métrage, savoir vraiment ce qui se fait différemment dans plein de styles différents. Et ça permet aussi d'avoir des soirées où tu ressors avec plein d'émotions et pas qu'une seule. Où, voilà, c'est un peu le. Donc c'est pour ça que quand tu vois des soirées de court métrage, t'es un peu, t'es vite pris dans plein d'émotions différentes. C'est plein de mondes différents. Et donc cette année, nous, on a fait ce choix-là. Après, dans ce qu'on a reçu sur les 1200 films, il faut avouer que il y a beaucoup de préoccupations sociales. C'est comme ça. C'est on reçoit beaucoup. Bon. La thématique de l'amour et la rencontre amoureuse, forcément ça tu en as toujours parce que c'est là voilà, c'est l'incondition, enfin on en a chaque année parce que les gens ont besoin de ça. On reçoit aussi pas mal de choses liées de plus en plus à la vieillesse, le rapport des générations peut-être aussi, il y a, on voit de plus en plus de films qui, et aussi de dialogue entre les générations, c'est pas que la séparation, c'est voilà, c'est, on a beaucoup de films autour de la vieillesse, des personnes âgées et des plus jeunes qui sont leurs enfants qui viennent les découvrir, etc. Et puis voilà, il y a une confrontation entre ce qui se passait avant dans, historiquement, et les maintenant, et donc des fois ça peut être à la fois très émouvant dans l'humour. On découvre aussi que les personnes âgées, ben il faut arrêter de les mettre dans une case et attendre que ça, voilà, que ça passe. Ils ont quand même beaucoup de choses, et c'est le monde souvent de courts métrages, beaucoup de choses à offrir encore à la société, et qu'on devrait se servir peut-être de leur histoire pour prendre exemple de ce qu'on fait maintenant, en se disant peut-être que ça a déjà été fait et que ce n'est pas les bons choix. Hein. On voit surtout dans tout ce qui est vote, dans tout ce qui est dans le passé, on oublie souvent le passé, et qu'on ne réinvente rien, en tout cas dans le social, hein, on ne réinvente rien. Hein. Il se passe toujours des choses qui ont été déjà traitées avant et qu'on n'a pas pris exemple et qu'on subit les conséquences. On a une thématique beaucoup sur le monde du travail, parce que voilà, le monde du travail devient peut-être de plus en plus difficile, si en plus on en a, parce qu'on sait qu'on ne peut pas en avoir. Est-ce qu'il est valorisant toujours ? Est-ce qu'il peut être source d'épanouissement ? Bien sûr, c'est du court-métrage, donc on ne va pas... forcément, qu'il faut se mettre à la place des réalisateurs, on ne va pas, faire un court-métrage pour dire tout va bien. Il y a toujours une facette un peu critique. Donc... voilà, il faut le savoir aussi. Donc, vous allez voir du court-métrage. C'est forcément critique. Donc, il peut y avoir un côté noir, comme aussi un côté. On étudie ça, on fait passer beaucoup de choses avec l'humour. Le monde du travail, c'est très. Quand tu prends le temps, c'est. Et si t'as le second degré, hein, c'est un monde qui peut être rempli d'humour, quoi. Un peu ironique, un peu cynique, un peu de ce que tu veux. Tu peux mettre tous les adjectifs que tu veux liés au monde de l'humour. Mais ça reste comme vrai. Voilà. Il y a des films qui traitent de ça dans notre programmation. Et donc le troisième thème, et on s'en doute, c'est tout ce qui est les migrants. C'est un thème qui a beaucoup été traité depuis 3 ans, qui peut-être... nous, on était à Clermont-Ferrand, donc je te disais, on y va chaque année, et il y a beaucoup de films qui traitent de cette thématique-là des migrants. Le court-métrage, ben voilà, nous, on ne va pas forcément en avoir beaucoup dans notre programmation, parce que... il y en a de très bonne qualité. Voilà, on en avait quelques-uns et on a choisi avec attention. Hein, quand je dis la bonne qualité, c'est par rapport à nos propres perceptions. Hein. Il y a d'autres, peut-être tu verrais d'autres films. Voilà, c'est toujours soumis à l'avis de la personne qui regarde. Hein. Encore une fois, nous, on est des programmateurs, on est une association, on est des bénévoles et on a peut-être un peu d'expérience. Parce qu'au bout de 19 ans, pour moi, pour Elian, qui est président, qui doit en avoir aussi une quinzaine d'années maintenant. Et puis d'autres qui en ont quelques... Forcément qu'on a quand même un petit regard, pas professionnel, mais voilà, on sait ce qui plaît ou ce qu'on a envie de montrer dans le courtivore.
Et c'était bien sûr une super interview qui nous a été refilée par notre camarade Loïc. Et on va se retrouver la suite de cette interview demain, chers amis, car là on s'est un peu étendu sur le cas de Jacques l'Éventreur. Et en attendant, je vous propose de s'écouter un petit morceau de musique avant de se dire au revoir. Est-ce qu'on s'écouterait pas de Fantastic Twins Holiday, dont vous parlait notre cher ami Alexandre tout à l'heure ? Moi, je dis que oui, alors The Fantastic Twins Holiday sur Radio HDR. Oh, là là, que c'était posé, c'est Fantastic Twins et j'ai coupé ça super brutalement. J'espère que vous n'étiez pas trop détendus, chers amis. Oh là, regardez-moi ça, le réalisateur débutant. Bon bah, je vais me rattraper en vous rappelant que les Fantastic Twins, hein, pour cette musique un peu planante, détente, vous pourrez les retrouver au Rush Festival, le vendredi 24 mai au dimanche 26 mai. On sera amené à vous en reparler, ne vous inquiétez pas. Et il est déjà 17h58, chers amis, c'est pour ça que je coupe de façon si abrupte, je panique car la fin de l'émission arrive. Et quand c'est la fin de l'émission, chers amis, vous savez ce qui se passe, on vous rappelle les programmes. Alors sur Radio HDR au 99.1, ensuite vous retrouverez bien sûr notre ami Loïc, qu'on a déjà entendu plus tôt dans cette émission, pour la rediffusion de Campus Mag, sa super émission Campus, voilà. Tout est dit dans le titre, et une émission où tout n'est pas dit dans le titre, vous pourrez la retrouver à 20h sur Principe Actif. Au 102.5 à Évreux et... Oh là là, chers amis du sud de l'heure, j'ai oublié votre fréquence. Où est Marie quand on a besoin de vous? Mais c'est pas grave, vous, de toute façon, vous pouvez la retrouver sur Internet aussi, donc pas de problème. Et vous retrouverez bien sûr Hit the Road Together, l'émission un peu éclectique, sympathique de Principe Actif. Et on est toujours content. Ah voilà, Principe Actif dans le sud de l'heure, c'est 95.9. Et voilà, alors quand la fille du vendredi n'est pas là, heureusement... On a le Ousmane du jeudi soir.
Merci Damien. Merci.
Mais merci à toi mon cher Ousmane. Bon bah chers auditeurs, voilà qui conclut cette émission du Blabla Mix. On se dit au revoir Alexandre.
Ciao. Salut, à la prochaine.
Au revoir Ousmane.
Merci Damien.
Et on se retrouve à demain sur Radio HDR et sur Principe Actif, le mix des cultures.